Laudetur Jesus Christus.
L'ultimatum lancé par le Premier ministre éthiopien aux troupes du TPLF a expiré hier soir. Le conflit fait toujours rage dans la région dissidente du Tigré et l'offensive finale va être lancée. 40 000 civils ont franchi la frontière pour se réfugier au Soudan voisin. Reportage juste après les titres. Verdict en Turquie dans le procès du putsch militaire manqué en 2016 contre le président turc Recep Tayyip Erdogan. Près de 500 personnes sont sur le banc des accusés et encourent la prison à vie. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden appelle à mettre fin à une sombre saison de division. Il s'exprimait dans une allocution à l'occasion de Thanksgiving, mettant en garde contre la véritable menace, la pandémie de coronavirus. Éclairage dans quelques instants. Et dans notre dossier, nous nous rendrons à Madagascar. Le sud du pays fait actuellement face à une grave famine. Un demi-million de personnes sont menacées. Témoignage du père Jean Chrysostome qui a fondé une association dans la province de Toliara pour venir en aide à la population de cette région aride.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour. Aucune accalmie en Éthiopie dans la région dissidente du Tigré. Le Premier ministre a ordonné ce matin le lancement de l'offensive contre les forces du Front de Libération du peuple du Tigré. Son ultimatum a expiré hier soir et l'assaut sur Mekele, la capitale régionale, qui compte quelque 500 000 habitants, est donc imminent. Hier soir, Addis Abeba avait appelé la communauté internationale à ne pas interférer dans le conflit. Un conflit qui fait peser une grave menace humanitaire. Plus de 40 000 civils ont franchi la frontière pour se réfugier au Soudan voisin. Reportage d'Eliott Mraché au bord de la rivière Tekezé qui marque la frontière entre l'Éthiopie et le Soudan.
Le bateau s'échoue sur la rive avec fracas. Une cinquantaine de réfugiés débarquent des sacs de farine, des poules, un vélo, tout ce qu'ils ont pu emporter dans la panique. Kyrostades et sa famille viennent de très loin.
Nous sommes d'un village à côté de Dancha. On a marché presque 3 semaines. On a dû payer des contrebandiers pour nous trouver un chemin sûr et échapper aux soldats et aux miliciens. Ils ont pris nos biens, ils ont brûlé nos maisons. On est affamés. Les soldats disaient de rebrousser chemin, mais tous ceux qui l'ont fait ont été massacrés.
Sur le bord de la rivière, un jeune homme ne quitte pas la rive éthiopienne des yeux. Burhan attend ici depuis 2 jours.
Ma femme était en train d'accoucher à l'hôpital de Houmera. Puis la ville a été bombardée. On a fui pour se cacher dans les champs. Ils veulent tuer les jeunes tigréens, donc j'ai dû laisser ma femme derrière moi avec nos 2 jumeaux. Maintenant, j'attends qu'ils arrivent.
En file indienne, ces nouveaux exilés grimpent la pente qui les emmène jusqu'au poste frontière de Hamdayet. Aujourd'hui, 1200 personnes ont traversé la rivière, venant s'ajouter aux dizaines de milliers d'autres qui s'entassent dans les camps soudanais. Eliott Mraché, Hamdayet, Radio Vatican.
Les résultats de la présidentielle au Burkina Faso pourraient être annoncés dans la matinée. C'est ce qu'a indiqué la Commission nationale électorale indépendante. Le président Kaboré, qui brigue un second mandat, était en tête du scrutin hier, selon les premiers résultats partiels portant sur 196 communes, ambassades et consulats généraux sur 368. Il a recueilli 58,14% des voix contre 14,25% pour le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré. Jour de verdict ce 26 novembre en Turquie pour l'un des principaux procès de la tentative de putsch du 15 juillet 2016. Près de 500 personnes, militaires et civils, sont soupçonnées d'avoir orchestré le coup d'État depuis la base aérienne d'Akinci, au nord-ouest de la capitale Ankara, présentée comme le centre de commandement des putschistes. La grande majorité des accusés risquent une peine de prison à perpétuité. Ce dossier emblématique n'est pourtant que l'un des volets des procès et des purges qui ont suivi le putsch avorté. À Istanbul, Anand Lower.
Le bilan de bientôt 4 ans et demi d'après putsch en Turquie, c'est d'abord une longue série de procès qui ont presque tous abouti à un verdict de première instance. Seuls 10 des 289 procès ouverts dans la foulée du coup d'État manqué attendent encore un jugement, dont celui de ce jeudi. À ce jour, plus de 4000 accusés, des militaires pour la plupart, ont reçu une peine de prison, une peine à perpétuité pour plus de 2500 d'entre eux. Le suspect numéro un de toutes ces affaires, le prédicateur musulman Fethullah Gulen, accusé d'avoir ordonné à ses fidèles dans l'armée de passer à l'acte le 15 juillet 2016, vit toujours aux États-Unis qui refusent de l'extrader. Les autorités turques se sont aussi lancées dès le lendemain du coup d'État manqué dans une purge inédite de la fonction publique. Au sein de l'armée, bien sûr, avec plus de 20 500 militaires démis de leurs fonctions depuis 2016, mais aussi dans les rangs de la police et de la gendarmerie, 36 000 fonctionnaires, ou encore à l'université où près de 6 000 enseignants ont été limogés. En tout, les purges ont concerné plus de 133 000 Turcs. Seuls 12 000 d'entre eux ont vu leurs sanctions annulées. À Istanbul, un loi pour Radio Vatican.
17 milliards de dollars, c'est ce qu'aura coûté le blocus de Gaza par Israël à l'enclave palestinienne. Son produit intérieur brut par personne a baissé de 27% selon une analyse de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement publiée hier, qui prend en compte la période 2007-2018. Le chômage atteint lui des sommets environ 52%, l'un des plus élevés au monde. Au Royaume-Uni, le ministre des Finances déclare l'état d'urgence économique. Cette année, le Trésor aura déboursé près de 400 milliards de livres, soit 535 milliards de dollars pour lutter contre la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 56 500 morts et a provoqué une contraction du PIB de plus de 11%, la plus forte baisse depuis trois siècles. Tout en reconnaissant que les circonstances sont exceptionnelles, l'opposition travailliste estime que les salariés et les familles ne sont pas assez soutenus. À Londres, Jean Jaffray.
Bien qu'il se soit engagé en mars dernier à faire quoi qu'il en coûte pour protéger l'emploi, en payant jusqu'à 80% des salaires, Rishi Sunak est confronté à des choix, d'une part pour relancer l'économie et d'autre part freiner la dégradation des comptes publics. Le nombre de chômeurs devrait atteindre 2 600 000 l'année prochaine, soit 7,5% de la population active. 134 milliards de dollars d'investissements seront débloqués en faveur du réseau routier, des chemins de fer, de la construction de logements et la formation continue, entre autres. Les régions, autrefois fiefs de la gauche, qui sont passées à droite aux dernières législatives, devraient être les principales bénéficiaires pour honorer les promesses de Boris Johnson. De leur côté, les écologistes regrettent que le gouvernement ne prenne pas les mesures nécessaires pour décarboniser l'économie d'ici 2050. La décision de réduire le budget du ministre du Développement international de 6,7 milliards de dollars est vivement critiqué par l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, et jusqu'au sein du Parti conservateur. À noter que le ministre des Finances n'a pas mentionné le Brexit, alors qu'un non-accord avec Bruxelles amputerait le PIB d'au moins 2% supplémentaires. Long Jean Jaffray, Radio Vatican.
Le Royaume-Uni qui annonçait hier réduire d'un tiers son aide au développement en 2021 en raison de l'effet de la pandémie sur ses finances publiques. La secrétaire d'État au développement, envoyée spéciale pour l'éducation des filles, a démissionné du gouvernement, jugeant cette décision fondamentalement erronée. Aux États-Unis, le président élu Joe Biden prévient « Les Américains n'accepteront pas que les résultats de l'élection du 3 novembre ne soient pas respectés ». Donald Trump, qui a lancé le processus de transition du pouvoir, ne reconnaît toujours pas sa défaite et appelle ses partisans à inverser l'issue du scrutin. Mais le peuple de cette nation a été à la hauteur, a assuré Joe Biden dans un discours d'apaisement juste avant Thanksgiving, l'occasion de mettre en garde les Américains contre la véritable menace qui pèse sur eux actuellement, la pandémie de Covid-19. À New York, Loïc Loury.
Nous sommes en guerre contre le virus, pas les uns contre les autres. Message d'unité lancé hier par Joe Biden face à la propagation galopante du Covid-19. Partout, les courbes s'affolent. Plus de 2000 morts et près de 200 000 nouveaux cas quotidiennement ces derniers jours. Plus de 260 000 victimes au total et la crainte de voir les fêtes familiales de Thanksgiving encore alimenter cette nouvelle vague. Le secrétaire à la santé déconseille d'ailleurs les grands rassemblements. Il assure avoir lui-même interdit à sa propre mère de le rejoindre. Dans certains États, de nouvelles restrictions ont donc été décrétées. La Californie, face à des chiffres records, ferme à nouveau bars et restaurants pour au moins 3 semaines. La ville de New York, il y a une semaine, annonçait, elle, que les écoles publiques n'accueilleraient plus d'élèves. Mais la situation est bien plus alarmante. Dans le centre rural du pays, le Dakota du Nord posséderait ainsi le taux de mortalité lié au Covid le plus élevé au monde. De quoi pousser certains gouverneurs conservateurs, c'est un changement par rapport au printemps, a enfin ordonné le port du masque. New York, Loïc Loury, Radio Vatican.
L'Argentine pleure la mémoire de Diego Armando Maradona, l'ancien joueur de foot et mort hier à l'âge de 60 ans. 3 jours de deuil national ont été décrétés par le président argentin. Maradona sera une part indélébile de la mémoire collective de l'Argentine, a commenté Alberto Fernandez. Maradona, ancien capitaine de l'équipe nationale, vainqueur de la Coupe du Monde en 1986, laisse un souvenir important en Italie, dans la ville de Naples en particulier, où il a joué pendant 8 ans. Il sera célèbre aussi pour ses démêlés avec la justice et sa consommation de drogue. Le pape a été informé de la mort de son compatriote, a précisé hier soir la salle de presse du Saint-Siège. Il repense avec affection aux occasions de rencontre avec lui ces dernières années et se souvient de lui dans la prière. L'ancien footballeur avait rencontré le pape 2 fois au Vatican en 2014 et 2015. Une vidéo de la rencontre de 2014 est disponible sur notre compte Twitter et sur Facebook. Dans notre dossier ce matin, nous partons pour le sud-ouest de Madagascar, confronté actuellement à une grave crise humanitaire. La pluie ne tombe pas et près d'un demi-million de personnes sont exposées à la famine, selon la Fédération des entités œuvrant pour Madagascar. La région vit la période appelée le kéré. Les faibles récoltes de l'année dernière sont terminées et celles de la saison suivante peinent à arriver. Le kéré est essentiellement dû à la sécheresse qui s'avère de plus en plus rude au fil des ans. Témoin de ce drame, le père Jean Chrysostome, salésien dans le centre de l'île, il a tout quitté pour fonder une association dans ses terres arides, dans la province de Tulliard. Son association, SOS Tulliard, vient en aide depuis un peu plus d'un an à la population locale. Il décrit la vie sur place.
La province de Tulliard, c'est la province plus sèche de Madagascar. Ici, la pluie tombe rarement. C'est-à-dire, dans les autres zones, il y a des pluies pendant 3 mois ici. Un mois et demi maximum. Mais le problème, c'est que la pluie n'est pas sûre. Les gens vivent de l'agriculture et l'élevage. Il n'y a pas de pluie, alors tout meurt. Alors c'est difficile pour les gens de s'adapter. Comment cultiver, quand et combien. C'est ça le vrai problème.
Oui, finalement, Père Jean, dans cette région, la population doit s'habituer à vivre sans eau, c'est ça?
Et oui, ici à Madagascar, l'année dernière, il y a peut-être seulement 2-3 fois pluie dans certaines régions. Et même pour chercher de l'eau, c'est très difficile. Il y a des régions où on ne trouve même pas de l'eau. C'est impossible de faire, de construire des puits. Ils ont creusé même jusqu'à 300 mètres, ils n'ont jamais trouvé. C'est ça le problème. Alors les gens doivent acheter de l'eau des camions qui transportent de loin. Et quand il y a des pluies, les gens vont sur la route et récolter des pluies pour la douche. Ils ne font jamais la douche parce qu'il n'y a pas d'eau. Alors quand il y a pluie, ils enlèvent les vêtements et ils font la douche naturelle sous la pluie. Dans certains lieux, j'ai vu cette situation, ils ont utilisé un seau d'eau pour 3 jours pour la famille. Un seau pour 6 personnes pendant 3 jours, c'est rien. Le vrai problème, c'est pas seulement la famine, mais surtout, c'est la soif.
Sans eau, vous nous l'avez dit, tout meurt. C'est impossible de cultiver quoi que ce soit. Alors, comment ces personnes se nourrissent-elles?
Ils se nourrissent avec des fruits des cactus. C'est les plantes qui sont désertiques. Et quand il n'y a plus de fruits des cactus, ils commencent à manger et à cuire les feuilles en enlevant les épines. Et quelquefois, quand ils finissent aussi les feuilles molles, ils commencent à cuisiner aussi les tamarins verts. Et pour enlever les goûts acides, ils mettent des cendres et ils mangent cette chose-là, le tamarin cuit avec des cendres. 2 ans passés, trouver un enfant qui était mort sur le bras de sa mère à cause de la famine.
C'est une région où les précipitations de base sont rares, mais elles deviennent de plus en plus rares. Comment vous nous expliquez cela?
Le problème, c'est que il y a toujours des feux de brousse, les gens sont ignorants, il n'y a pas de loi très forte. Et puis, comme il n'y a pas d'agriculture, de cultivation des plantes, alors les gens se vivent pour la fabrication de charbon. Et il y a toujours des déforestations. Alors, selon moi, la pluie s'éloigne toujours, c'est comme ça. Il faut changer de style de vie.
Oui, il faudrait finalement que la population puisse sortir de ce cercle vicieux, mais est-ce que cela est possible?
Nous cherchons d'apprendre les gens la conséquence des feux, des brousses, etc. Maintenant, il commence à diminuer un peu l'effet de brousse. Mais le problème, c'est comment vivre. S'ils ne font pas le charbon, ils n'auront jamais de quelque chose à manger.
Interrogé par Marine Henriot, le père Jean Chrysostome, fondateur de l'association SOS Tulliard, était ce matin l'invité de Radio Vatican. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de votre écoute. On se retrouve à 13h. Très belle matinée. Au revoir.